Ne lui parlez pas du 25 décembre. Pour lui, c'est une fête insignifiante que celle de Noël. Parlez-y par contre du repêchage. Là, il est en mode festif, en mode célébration. Simon Boisvert, le Snake, salut!
Salut Simon!
Salut messieurs, puis il y a également le repêchage de la NBA ce soir.
Oui, on en a parlé avec Éric Auziel tout à l'heure.
C'est vrai ça,
effectivement. C'est vraiment une semaine pas mal de fun.
Mais attends, est-ce que toi, t'es un partisan du repêchage de la Ligue nationale, tu suis les espoirs, mais est-ce que tu regardes beaucoup de tout ce qui est fait dans les autres ligues concernant les espoirs ou c'est juste concentré LNH et NBA? Ben,
je pense
les quatre ligues.
Ah ouais.
C'est sûr, okay, c'est sûr que baseball, c'est plus difficile à suivre que football, basketball.
Ouais.
Mais je me renseigne quand même, là, fait que j'ai une idée de ce qui se passe. Mais basket, là, on les a vus, là, Cooper Flagg, Dylan Harper, on les connaît bien. Là. Ouais.
Ah, c'est particulier.
Noël, ça commence ce soir pour Simon Boisvert. Ça s'étire jusqu'à vendredi, jusqu'à samedi matin.
C'est quoi les rendez-vous dans les prochains jours, Simon? Là, je sais que vous avez sorti un épisode de Processus hier, si je ne m'abuse, mais dans les prochains jours, ça ressemble à quoi?
Bien là, ce qui va arriver, c'est que Mathias et moi, on fait le clavardage sur le journal La Presse vendredi soir.
Oui.
Et samedi après-midi, à compter de 16 heures, on va être en onde en direct à BPM pour probablement 2 heures. Pour commenter tout le repêchage, les choix du Canadien des rondes 1 à 7, les surprises, les échanges. Et ensuite, et cet épisode-là, de toute façon, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de l'entendre en direct, ça va devenir l'épisode de Processus.
Excellent. Excellent. Je sais qu'on aura une émission spéciale en direct sur YouTube de notre côté. Avec Martin Thériault, Anthony Desaulniers, Greg Langteau. Je pense que Olivier Paiement va être là aussi. Parce qu'on diffuse le Galette Box sur les ondes de BPM Sport, mais sur YouTube, on sera en direct pour le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Quelques nouvelles dans la Ligue nationale, Simon, parce qu'on va en jaser de la décision des Rangers de finalement donner le choix de première ronde de cette année. Mais juste avant, je veux t'amener sur quelques nouvelles Ligue nationale en rafale. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Evander Kane qui a été transigé, c'est arrivé dans la dernière heure, échangé aux Canucks de Vancouver pour libérer de la place sur la masse salariale. Je veux te dire que j'ai quand même été surpris que pour libérer de la masse, je m'aurais attendu à ce qu'on donne un actif supplémentaire chez les Oilers. Et au contraire, on reçoit un choix de 4e ronde pour Evander Kane.
Ben, je ne sais pas jusqu'à quel point les Oilers étaient pris à la gorge. Je pense que c'est probablement pour payer pour l'augmentation de salaire d'Evan Bouchard.
Ouais.
Il y a également, à un moment donné, c'est une question d'offre et de demande. Si, Evander Kane, il y a quand même une certaine valeur pour un an. C'est un contrat qui expire. Alors, et il est encore efficace. Donc, certaines équipes peuvent dire, ben, écoute, nous, Evander Kane, ça va être un plus pour nous cette année. Alors, à ce moment-là, c'est pas nécessairement, on ne fait pas nécessairement une faveur aux Oilers en allant le chercher. Parce que Kane demeure quand même un joueur encore efficace et, il faut le rappeler, un joueur de location, parce que c'est ce qu'il est.
Exact.
Ça a quand même toujours une certaine valeur pour les équipes, là, pas juste à la date limite des transactions, mais même avant le début d'une saison.
Trevor Zegras est changé, c'est arrivé durant notre émission à Ben et moi lundi, mais je voulais ton avis sur Trevor Zegras, évidemment, c'est sûr que j'allais t'en parler. Est-ce que tu penses que Philadelphie est une destination qui va lui permettre d'atteindre son plein potentiel dans la Ligue nationale?
Ben, la question que je me pose tout le temps, moi, c'est quoi son plein potentiel?
OK.
Moi, c'est un joueur que je trouve qu'il y a des failles, dans le sens que oui, c'est bien beau les Michigans, mais je trouve pas que c'est nécessairement un joueur qui prend le contrôle d'un match. C'est pas un gars qui est loin de là un premier centre ou même un ailier de premier trio. Je pense qu'on est un petit peu aveuglé par certains jeux spectaculaires qu'il a fait. Mais, et je sais qu'il y a eu deux saisons de 60 points au début de la vingtaine, ce qui n'est pas à négliger. C'est sûr que Greg Cronin, l'entraîneur Anaheim, était probablement pas un de ses grands fans.
Non, pas du tout.
Parce qu'à Anaheim, on voit que je regardais ça, moi, un peu, comment ça se dessine. Il y a quand même... Je trouve que pour la production offensive qu'ils ont, je dois reconnaître qu'il y a quand même plus de talent que ça. T'sais, les Carlson, les McTavish, Gauthier, des fois, j'ai toujours eu l'impression, moi, qu'ils étaient un petit peu étouffés par le système de jeu d'Anaheim. Donc, je ne suis pas prêt à jeter la pierre à Zegras complètement. Cependant, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur peut-être qu'on surévaluait un peu. Et la preuve, c'est que regarde ce qu'on a obtenu en retour. Alors, il y en a qui vont dire, est-ce que c'était la meilleure offre? Bien, je ne sais pas si c'était la meilleure offre, mais ça dépend c'est quoi les offres. Dans le sens que si on a offert à Anaheim un genre de joueur comme Zegras, ben peut-être que le directeur gérant Verbeek n'en voulait pas. Alors lui, il a pesé les pour et les contre, puis il s'est dit, j'ai besoin d'un centre de quatrième trio qui patine, qui est agressif. Alors Ryan Poehling, il remplit une case importante dans mon organigramme. Tu sais, à tort ou à raison, là. Ça, comme je t'ai dit, ça dépend des équipes. Mais je pense qu'on est loin de certaines idées qui circulaient sur les médias sociaux dans les derniers mois, que Trevor Zegras valait un premier choix et un espoir de premier plan.
Je suis quand même surpris, pareil, du retour. Je pense que si on l'avait échangé au courant des dernières années, on aurait eu un peu plus. Aussi, dans le cas de Trevor Zegras, il reste une année de contrat. Moi, je te dirais que je comprends la décision des Ducks parce que je vois davantage Zegras comme un allié, mais au centre, on avait déjà quand même Mason McTavish et on avait Leo Carlson aussi chez les Ducks. Mais j'aurais aimé ça voir Zegras avec Joel Quenneville parce que je pense qu'il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Puis là, bon, en ce moment, je veux pas défendre un joueur nécessairement comme Trevor Zegras, mais j'essaie de vous dire que je pense que l'environnement avec Greg Cronin, Anaheim, c'était un peu toxique. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas pu voir le Trevor Zegras qu'on aurait dû voir après ses saisons de 61 et 65 points. Moi, je le vois davantage, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Simon, je le vois davantage plus comme un allié maintenant qu'un joueur de centre.
Ben oui. Ben
puis, oui. Parce que souvent, on repêche, si on repêche, puis on le sait pas nécessairement si le gars, la transition va bien se faire dans la Ligue nationale à la position de centre. Souvent, on voit des centres être transférés à l'aile. Dans le cas de Trevor Zegras, c'est un peu ça. Mais j'y crois encore à son potentiel. Oui, il est peut-être un peu surévalué, Simon, mais je le trouve talentueux, Trevor Zegras. Et je pense encore qu'une autre destination pour lui va lui faire du bien puis qu'il pourra peut-être éclore dans une équipe comme les Flyers.
Mais la question, c'est de savoir quelle est son utilité dans une équipe, au-delà de quelques beaux jeux, des points et tout. Puis je pense qu'à Philadelphie, on va avoir une meilleure idée. Parce que, bon, là, à Philadelphie, déjà, on a un joueur offensif que je ne qualifierais pas d'unidimensionnel, mais quand même, qui n'est pas le meilleur sur 200 pieds en Mishkov. C'est également le cas de Zegras, donc on en a deux, là. Puis ce n'est pas des joueurs à gros gabarit non plus. Donc, Philadelphie, il va falloir... Tu sais, je comprends qu'ils ont Tippett, je comprends qu'ils ont Forster, ouais. Couturier, mais il va falloir quand même qu'ils encadrent ces deux gars-là avec un petit peu plus des joueurs un petit peu plus gros et des joueurs complets. En tout cas, je pense que Zegras, selon moi, oui, il risque de produire davantage à Philadelphie. La seule question que je me pose, c'est son utilité nette. Tu sais, là, avec les pour et les contre, quelle va-t-elle être? Dans une équipe. Je pense que ça reste encore à déterminer. Je pense que la vérité en Zegras se situe entre ce que certains voient en lui, là, de ouais. façon un peu dithyrambique, et ce qu'il a démontré dans les deux dernières saisons à Anaheim. Je pense que ça se situe un petit peu entre les deux.
Je regardais ce repêchage-là de Trevor Zegras, Simon. Il y a tellement de choix top 10 qui ont été échangés au fil des années. C'est quand même surprenant. On parlait quand même d'une bonne cuvée, là, celle de 2019, mais il y a beaucoup d'espoirs là-dedans qui ont changé d'air. Pas le premier choix de Jack Hughes, mais par la suite, quand tu regardes les autres choix de 2019, Kapo Kako a changé d'adresse, Kirby Dach a changé d'adresse, Bowen Byram a changé d'adresse, Dylan Cousins, Philippe Broberg, Trevor Zegras. Écoute, c'est une bonne cohorte.
Ouais, pourtant. Ouais. Tu peux même rajouter Alex Newhook qui
Alex
est
Newhook.
Un petit peu plus loin. Ouais. Et Spencer Knight, je crois, c'était cette année-là, Spencer Knight?
Oui. Ouais.
Bon. Car il y a des circonstances. Des fois, tu as des joueurs qui superforment et tu as d'autres fois, tu vas te servir de certains joueurs pour aller chercher d'autres choses. Mais ça te démontre quand même une chose 6 ans plus tard. C'est que une cuvée de repêchage qui est perçue nécessairement comme formidable peut s'avérer plus ou moins décevante quelques années plus tard et vice-versa. Puis ça va m'amener à tu feras le pont quand tu voudras,
oui.
Au sujet des Rangers.
Oui, ben, vas-y.
Qui laissent aller leur choix. Je ne sais pas si tu veux passer à ça tout de suite.
Ah oui, on peut y aller tout de suite.
Ben voilà. Alors, regarde. Là, tout ce que j'entends depuis quelques semaines, c'est que la cuvée de 2025 n'est pas forte et la cuvée 2026 est beaucoup meilleure.
Oui, c'est ce qui circule beaucoup, je te dirais, sur les réseaux sociaux.
Ça circule basé sur quoi? Bon, l'année passée, là, à Stassi, j'entendais dire que la QV 2025 serait meilleure que la QV 2024. Fait que je pense qu'une grosse partie de l'analyse est basée sur les deux, trois meilleurs espoirs. Et à partir de ça, on va nécessairement catégoriser une cuvée comme étant bonne, moyenne ou faible. Là, l'année prochaine, il y a Gavin McKenna.
Exact.
Alors, automatiquement, ça rehausse la cuvée. Je le sais, c'est important le premier choix. Mais quand je regarde ce qu'il y a après, en ce moment, là, au moment où on se parle, en juin 2025, il y a encore une grosse saison, là, la saison de 17 ans des joueurs là, qui n'est pas arrivée encore. Moi, je regarde ça, puis je vois à peu près le même nombre de bons joueurs, puis à peu près la même qualité que y a cette année, en 2025. Peut-être que ça va changer, peut-être l'an prochain, je vais dire hey, « Wow! » Les gars ont été absolument formidables cette année. La QV, mais je ne pense pas qu'un an à l'avance, on soit capable de dire ça. Parce que le plancher est jonché d'espoir qui devait être très, très bon et qui, un an plus tard, chute énormément. Puis, ou qui sous-performe. Et puis, bon, on pensait que ce serait des grandes vedettes. Puis, finalement, c'est des gars qui sont pêchés 15e. Donc, moi, je pense que c'est un petit peu des choses... Je te dirais pas que les gens qui disent ça parlent à travers leur chapeau, mais je te dirais que j'aimerais ça qu'on me le justifie. Le fait que la QV 2025 en ce moment est si forte que ça et que c'est pour ça que les Rangers ont gardé leur choix.
Non, mais je pense que, Simon, beaucoup justifient le fait que les Rangers aient décidé de garder leur premier choix l'an prochain en voulant se protéger, mais moi, je le vois pas du tout de cette manière-là. Je le vois d'une façon, peut-être, que si les Rangers connaissent une meilleure saison l'an prochain, c'est un actif supplémentaire que tu peux te servir à la date limite des transactions. Tu sais, je vois pas de... Ah, le repêchage de l'an prochain est nécessairement meilleur que celui de cette année.
Vois-tu, il y a toutes sortes de théories qu'on peut sortir sur ce que les Rangers ont fait. La première, évidemment, c'est de se protéger de Gavin McKenna, de perdre Gavin McKenna. On l'a vu avec les Islanders cette année, ils avaient les 10 meilleures chances d'obtenir Matthew Schaefer. Bon, il y en a qui vont dire que ça envoie un très mauvais message aux joueurs et à l'entraîneur. Autrement dit, on n'a pas confiance en vous. On a peur de manquer encore les séries. Ben, ça, vois-tu, c'est une autre conséquence là, de cette théorie-là. Toi, tu dis, ben, écoute, on garde le joueur, puis on garde le choix, puis on s'en servira l'an prochain. Oui, il y a ça aussi. Peut-être aussi qu'au numéro 12, Rangers se disait, bof, ça vaut-tu vraiment la peine de risquer de perdre McKenna, exemple, si jamais ça tourne au vinaigre, la saison, pour un joueur, finalement, peut-être, de milieu d'alignement, t'sais, selon leurs évaluations. Ou, ça peut aussi laisser entendre, déjà, on a échangé Chris Kreider, est-ce que les Rangers se préparent à liquider des joueurs cet été? Est-ce qu'on prépare une genre de mini démolition de l'alignement?
Ça se peut.
Et pas nécessairement pour finir dernier.
Non.
Peut-être pour faire une genre de réinitialisation, appelle ça comme tu voudras.
Oui, avec Bergevin disait reset on the fly. Là.
Oui, c'est ça. Alors peut-être que les Rangers se disent, ben là, déjà, tu sais, on s'est débarrassé de Trouba, Kreider, on n'en voulait plus pour X, Y, Z raison. Et là, peut-être qu'on se dit, ouais, OK, on ne sera pas dans la course pour aller chercher Mitch Marner. On dépensera pas nécessairement une fortune, mettons, pour un John Tavares ou un Sam Bennett. Donc, ouais. Cette année, ça n'a pas été très bien. Fait qu'écoute, dans le meilleur des cas, ben, on est bon. Puis comme tu dis, ben, ça fera un actif à la date limite des transactions parce qu'il ne faut pas oublier que les Rangers avaient gagné le championnat de la saison régulière il y a 2 ans. Alors, s'ils ont le 24e choix, ben, ça sera le 24e choix. Et eux autres ne voient peut-être pas une grande différence entre le choix de cette année ou le 12e choix cette année puis le 24e l'an prochain. Et si ça tourne mal, ben, on aura un choix très élevé.
Oui, exact.
Alors, on se débarrasse du... Tu sais, Pierre Dorion avec Ottawa en 2018. Il avait le 4e choix. Il avait choisi Brady Tkachuk et il avait choisi de différer son choix en 2019 au Colorado. Ottawa finit dernier. Ça aurait pu être Jack Hughes.
Hein? C'est vrai.
Mais le boulier, les aidants, ben, c'est devenu le 4e choix et Colorado a choisi Bowen Byram. J'aime beaucoup Bowen Byram, mais je pense que Tkachuk est un meilleur joueur et plus utile aux Sénateurs que Byram peut l'être à l'équipe, dans les équipes pour lesquelles il a joué. Donc, Dorion a parié et a gagné. Les Rangers, cette année, ils ont décidé de ne pas parier.
C'est correct.
Ouais.
J'aurais fait, je crois, la même chose. Je pense que j'aurais gardé celui de l'an prochain, même si tu penses être meilleur, parce que dans ces circonstances-là, tu peux décider ce que tu veux faire, soit en l'échangeant ou en le gardant. Si les Rangers, l'an prochain, sont plus décevants, comme ils font, comme tu l'as mentionné, ils font peut-être une reconstruction, là, de ben, reset on the fly, ça se peut très bien que l'an prochain, ça se passe plutôt mal aussi pour les Rangers, et à ce moment-là, plus de chances pour gagner la loterie McKenna. McKenna, Simon, c'est le prochain Connor McDavid, c'est le joueur générationnel. Connor Bedard?
Moi, j'aime mieux Connor Bedard. J'aime mieux McKenna que Bedard. Mais je trouve quand même une coupe de coche en dessous de McDavid. Il n'y a pas l'accélération de McDavid. Oui, il est capable de faire des jeux à pleine vitesse, mais jamais comme McDavid au même âge. Et je te dis bien McDavid au même âge. Je l'ai beaucoup observé à la Coupe Memorial. J'ai vu tous ses matchs en personne. Ça a été seul. C'est sûr que c'était le joueur le plus talentueux du tournoi. Il ne faut pas, faut pas trop être méchant avec lui. Mais il lui manque un petit quelque chose, je te dirais, pour être le prochain McDavid. Mais meilleur que Connor Bedard, oui. Est-ce qu'il va être meilleur que Celebrini? Je ne sais pas encore, parce que Celebrini a quand même prouvé durant sa première saison dans l'LNH que c'était tout un joueur déjà. Et là, supposément que McKenna s'en irait soit à Michigan State
ou
à Penn State, après ce qu'on a entendu dire. Alors, ce sont quand même des programmes intéressants. Lidstrom, lui, son coéquipier, est déjà parti. Donc, on présume que McKenna va vivre sa saison de repêchage dans la NCAA. C'est dommage pour le hockey junior canadien, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'adore, McKenna. OK? Alors, je veux mettre ça quand même au clair. Mais j'ai pas vu la même étincelle que j'avais eue pour McDavid il y a 10-12 ans.
Mais il serait le meilleur premier choix au total depuis qui?
Il y a peut-être un an, je t'avais dit McDavid. Depuis McDavid.
Mais là, c'est les Brunies.
De Matthews, Jack Hughes, enfin, nommez-les toutes.
Oui. Rasmus Dahlin.
Là, je vais te dire une chose. Pardon?
C'est-tu moi ou Connor Bedard après une débarque?
Garde, je vais répondre à ta question, Ben.
On criait au génie, là.
C'est une bonne question, mais je vais t'en parler de Connor Bedard après, puis je vais revenir sur tes propos que j'avais tenus sur nos ondes il y a une couple d'années, il y a 3 ans peut-être.
OK.
Juste pour finir sur McKenna, moi, j'ai Celebrini en très, 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 très haute estime. Alors, en ce moment, je te dirais que depuis McDavid, j'hésiterais entre Celebrini et McKenna.
Ah, oh, ouais.
Wow. Quand même. Intéressant.
Il y a eu des bons premiers choix au total.
Ah oui, il y en a eu.
C'est pour ça que je pose la question.
Oui, c'est sûr qu'il y en a eu des bons. Pour ce qui est de Connor Bedard, Ben, moi, il y a 3 ans, pendant le championnat junior, alors que Bedard était absolument exceptionnel à son année de repêchage, j'avais soulevé 2 points. Puis, avec l'animateur qui était là, puis j'avais dit, j'ai 2 bémols concernant Connor Bedard. J'ai dit, je crois qu'il va faire beaucoup de points. Je crois qu'il a un arsenal de tir qui est déjà top 10 dans la LNH, là, même à l'âge de 17 ans. Et je pense qu'à date, on l'a vu. Mais je me posais une question. Est-ce qu'un joueur de centre de cette grandeur-là peut devenir un joueur générationnel? C'est jamais arrivé dans l'histoire du hockey. Qu'un joueur de 5 pieds 9 et demi, quelque chose comme ça, au centre devienne un joueur générationnel. C'est pas arrivé. Deuxièmement, il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu dans le cas de Bedard, c'est qu'il jouait dans la Ligue de l'Ouest. Puis la Ligue de l'Ouest, oui, il sort des bons joueurs de la Ligue de l'Ouest, mais si tu regardes les 50-75 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, il y a très, très peu d'attaquants de la Ligue de l'Ouest. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une dilution du produit dans cette Ligue-là qui fait que les points sont peut-être un petit peu plus faciles à obtenir. Alors moi, c'était les 2 bémols que j'avais mis sur Bedard. Maintenant, à la défense de Bedard, depuis qu'il est à Chicago, ben malheureusement, il joue tout seul. Puis il a quand même eu des saisons de 60 points en tant que joueur de moins de 20 ans. Donc, on peut présumer qu'éventuellement, Bedard pourrait être un gars de 90-100 points lorsque mieux entouré, plus d'expérience. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il va être le moteur, est-ce qu'il va être la locomotive des Blackhawks de Chicago? C'est pas un gars... pour l'avoir vu en personne là, au Centre Bell, c'est pas un gars qui a un coup de patin générationnel, comme on dit. T'sais, c'est pas un gars qui a une accélération formidable. Il y a beaucoup de joueurs élites dans la Ligue nationale qui patinent beaucoup mieux que lui. Puis, c'est un gars, par contre, qui est très, très dangereux entre la ligne bleue et le filet adverse. Fait que, oui, ça peut être un gars qui va faire beaucoup de points, mais je ne sais pas si c'est nécessairement le gars qui va traîner les Blackhawks de Chicago sur ses épaules, comme on présume que Celebrini peut traîner les Sharks, que McKenna peut traîner l'équipe qui va le repêcher, que McDavid traînait l'équipe qui va le repêcher. Moi, j'ai toujours vu une coche en dessous de ça.
Okay.
Joueur productif, mais pas loin d'être générationnel.
Intéressant.
J'ai une autre question sur Connor Bédard, mais je vais te la poser au retour de la pause. Simon, on s'arrête 2 minutes, on vient avec Simon au retour. On est de retour avec Simon Boisvert. J'avais une autre question sur Connor Bédard, Simon. Je voulais te demander, je regarde un peu, puis on parlait tout à l'heure de souvent les joueurs qui sont repêchés au centre, arrivent dans la Ligue nationale, finalement on les transfère à l'aile. Dans le cas de Connor Bédard, au cercle des mises en jeu, je le sais qu'il a juste disputé 2 saisons dans la Ligue nationale, mais il est à 38%. Est-ce que c'est davantage un joueur que tu vois possiblement à l'aile dans le futur ou tu considères que c'est un premier joueur de centre?
Yeah. L'affaire des mises au jeu, je m'inquiète pas trop avec ça. C'est plus l'ensemble de l'œuvre, là. C'est plus l'ensemble du jeu d'un joueur que je regarde. Si, mettons, je le vois plus à l'aile au centre. Tu sais, la majorité des joueurs de centre junior vont aboutir à l'aile. On regarde le repêchage cette année. Il y a énormément de joueurs de centre qui vont sortir vendredi. Mais il y en a très peu qui vont demeurer à cette position-là. Alors, je crois que dans le cas de Bédard, ça va dépendre comment l'organigramme des Blackhawks se concrétise dans les prochaines saisons. En ce moment, on a Bédard et Frank Nazer comme centre numéro 1 et 2.
Ouais.
Pas idéal, c'est 2 joueurs en bas de 6 pieds. Est-ce que Nazer peut rester au centre? Lui non plus, je ne suis pas vraiment certain s'il peut rester au centre. Mais là, cette année, qui les Blackhawks vont-ils choisir? Tu sais, si tu te retrouves avec, mettons que Michael Mizza s'en va à San Jose puis Schaefer s'en va aux Islanders, peut-être qu'on va prendre Anton Frundell. Anton Frundell, c'est un joueur qui est capable de jouer au centre, qui a joué beaucoup à l'aile, mais il est capable de jouer au centre. Est-ce que dans la Ligue nationale, ça va être un joueur de centre? Encore là, on ne sait pas. Mais si les Blackhawks le repêchent, bien lui, ça pourrait en être un qui pourrait menacer Nazar et ou Bédard d'être tassé à l'aile. L'an prochain, on présume que les Blackhawks de Chicago ne sont pas très bons non plus. Ils vont peut-être avoir un joueur de centre aussi. Alors, je pense que dans le cas de Bédard, on va certainement le laisser là pendant au moins une couple d'années encore avant de prendre une décision à savoir si éventuellement il est mieux à l'aile ou au centre. Comme je t'ai dit, l'organigramme d'une équipe, il y est pour beaucoup. Connor Bédard, peut-être s'il était à Anaheim en ce moment, bien, on en ferait un ailier tout de suite parce qu'on se dirait on a Carlson McTavish, qui sont des potentiellement des meilleurs joueurs de centre, pas nécessairement des meilleurs pointeurs, mais des meilleurs joueurs de centre. Mais à Chicago, en ce moment, ben c'est ça, c'est Bédard, le centre numéro 1.
Ça m'amène à te poser...
Rumeur.
Ça m'amène à te poser la question suivante. Selon Frank Cervalli, c'est sorti au courant des dernières journées, c'est rien d'officiel du tout, mais les Blackhawks auraient discuté d'échanger leur 3e choix au total pour mettre la main sur J.J. Peterka. Je veux t'entendre réagir sur cette rumeur de Ligue nationale. Parce que l'on parlait justement du choix numéro 3, peut-être sélectionner un joueur de centre chez les Blackhawks.
Ouais, mais là, tu es en train de me dire qu'on parle de 1-1, Peterka contre le 3e choix?
Non, il y aurait eu des discussions d'échanger possiblement le 3e choix au total. Qu'est-ce que ça vaut, le 3e choix au total? Et concernant J.J. Peterka, à quel point c'est assez ou non pour mettre la main sur Peterka?
Ben, moi Peterka, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
Ouais.
C'est dans la mesure où, bon, c'est pas un joueur étoile, mais c'est un joueur que j'apprécie énormément. Jamais je donnerais le 3e choix pour J.J. Peterka.
Bon, voilà, c'est ça que je voulais entendre.
Ben non, ça n'a aucun sens.
À moins que peut-être que, du coup, on ajouterait à ça du côté des Sabres de Buffalo, mais c'est juste que c'est arrivé dans les discussions de parler du 3e choix total dans une éventuelle transaction. Il y a aussi ça qui est sorti, Simon, concernant Anton Frundell, qui serait le choix, le garde. On est au repêchage, ça peut être du bluff. On a vu du bluff en masse l'an dernier avec Ivan Demidov pour le Canadien. Je sais pas si c'est du bluff, mais pourrait sortir au numéro 2. Serait le choix, possiblement, des... Et ça m'a étonné, des Sharks de San Jose. Je veux t'entendre là-dessus.
Ouais, ça, j'ai beaucoup entendu là-dessus. Il y a des spécialistes d'espoir qui étaient au Combine et puis qui rassemblent des informations par-ci par-là et qui ont essayé de mettre les pièces du casse-tête ensemble. J'ai également écouté hier ou avant-hier le point de presse de Mike Greer, le directeur des Sharks. On lui a posé la question... qu'est-ce qu'il pensait de Frundell? Qu'est-ce qu'il pensait de Mizza? Tout me porte à croire, si tu lis entre les lignes, qu'il va prendre Mizza.
Ouais.
Mais il n'a vraiment, vraiment pas écarté Frundell de là. Parce que Mike Greer, n'oublie pas, là, oui, il accumule du talent. mais c'est un gars qui a été très, très clair pendant la saison. Il veut des joueurs physiques. T'sais, il a repêché des Quentin Musty, des Igor Chernyshov. Puis pour son, il est allé chercher Zach Ostapchuk d'Ottawa pour son quatrième trio. Je pense que c'est un gars qui veut entourer les Celebrini, Smith et Eklund de joueurs extrêmement physiques. Et puis, Frondell correspond peut-être un petit peu plus à cette définition-là que Michael Mizza. Mais Michael Mizza, côté talent, même si ce n'est pas un joueur super électrisant, il est quand même supérieur à Frondell. Alors, ça serait vraiment quelque chose de passer à côté de ça au numéro 2. Un moment donné, moi-même, pendant la saison, je me suis dit, est-ce que ça se peut que les Sharks prennent Porter Marton? Parce que Porter Marton répond un peu à la définition de ce que Mike Grier recherche. Mais encore là, quand tu choisis numéro 2...
Non, mais Simon, la première chose que tu me dis tout le temps, là, quand on parle du repêchage qui s'en vient, c'est que tu prends le meilleur joueur disponible,
ben
le
oui,
talent.
Tu prends le joueur,
talent brut, tu repêches au rang numéro 2.
Oui, tu repêches au rang numéro 2. Fait que d'après moi, ça va être Mizza. Mais je comprends l'idée d'Era Frondell. Frondell, c'est quand même peut-être le gars qui a le meilleur lancé du repêchage. C'est un gars qui est bon dans les deux sens de la patinoire, qui est agressif. C'est pas un deux de pique, Frondell. Là. Je serais bien étonné, moi, qu'il dépasse le troisième ou le quatrième rang.
Mais serais-tu déçu? Si jamais, parce que le premier choix est unanime en Matthew Schaeffer, d'ailleurs, Mathieu Darche a confirmé qu'il n'y a aucune chance que son premier choix au total soit échangé. Mais est-ce que tu serais déçu de voir que les Sharks au deuxième rang choisissent ensuite? Hey, ça donnerait un beau cadeau aux Blackhawks de Chicago sur le rang numéro 3.
À chaud, je serais un peu déçu si Frondell partait numéro 2 aux Sharks. Mais Michael Mizza, comment dirais-je? Michael Mizza, c'est pas un joueur d'exception non plus. T'sais, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. C'est un gars qui est très, très dangereux autour du filet. Mais je donnerais la chance aux coureurs. Tu comprends ce que je veux dire? Je serais déçu, mais je donnerais quand même la chance aux coureurs si les Sharks choisissaient Frondell au lieu de Mizza. J'ai quand même Mizza deuxième sur ma liste. J'ai Frondell troisième. Fait que c'est ça. Ah, excuse, j'ai Frondell quatrième. J'ai Desnoyers troisième.
Desnoyers troisième, exact.
Ouais.
On a hâte, c'est vendredi, ça s'en vient, c'est le repêchage de la Ligue nationale d'un peu plus de 48 heures. Je te laisse aller, Simon, on s'en reparle la semaine prochaine, mais je
merci
veux te
beaucoup,
souhaiter
Simon.
Un bon repêchage. Je sais à quel point tu suis ça tout au long de l'année, tu suis les espoirs 2, 3, 4 ans à l'avance. Je sais à quel point c'est important pour toi cette période-ci de l'année. Bon repêchage, je te souhaite le joueur que tu veux au rang numéro 2 avec les Sharks de San Jose. Si c'est Anton Frondell, je vais te laisser un texto.
Regarde, la semaine prochaine, on va avoir beaucoup de matériel. C'est le lendemain de la journée des joueurs autonomes.
En plus.
Fait que ça va être le fun.
Joyeux Noël.
Merci, Ben. À toi aussi.
Salut, Simon.
Salut, Simon.
Merci. Bye-bye. Alors, Simon Boisvert, là, vous venez de l'apprendre peut-être en début de chronique. Pas seulement les espoirs de la LNH qui le surveillent.
Non.
Les quatre grands circuits.
Ça, je savais pas ça, par contre. Tu l'avais-tu appris durant l'entrevue que vous aviez fait avec Simon?
J'avais appris, oui, dans l'entrevue de fond, qu'il s'intéressait aux autres sports, mais avec une telle passion pour les quatre grands circuits, c'est quelque chose. Respect infini.
C'est une bébite, sérieux.
Respect infini à Simon Boisvert.